Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Bourdel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de commencer la semaine avec vous et Culture Média. C'est notre dernière semaine de la saison régulière, comme on dit en NBA. Avant de passer à la version été, on vous dira tout. Et c'est peut-être le bon moment pour vous faire une idée neuve. Bienvenue si vous nous écoutez pour la première fois. Au menu, médias et culture au sens large. Tous les médias, toutes les formes de culture. Aujourd'hui, électro et jeux vidéo. Il y aura le journal des médias de Cyril Lacarrière, le journal de la culture d'Hélène Manarino et son portrait inattendu. Pour deux heures, nous sommes ensemble en direct. Et vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur europe1.fr. Notre infomédia, la place des femmes dans les médias justement pendant la crise du coronavirus. Elles ont été, je ne vous apprends rien, en première ligne sur le terrain et pourtant, les femmes ont autant été sous-représentées que d'habitude à la radio, à la télé et dans les journaux. C'est la conclusion d'un pré-rapport remis aux ministres Franck Riester et Marlène Schiappa par la députée Céline Calvez qui sera avec nous. Nous invitons ensuite le reporter Hugo Clément pour un nouveau numéro de sa grande soirée environnement sur le front, quelque part entre Ushuaïa et Cache Investigation, le thème « Les animaux menacés ». Et puis un autre amoureux des animaux, Franz-Olivier Gisbert, pour son nouveau roman « Dernier été », une uchronie dans laquelle il passe ses collègues à la sulfateuse. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Bourdel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias, qu'est-ce que vous avez au sommaire ce matin?
On prend les mêmes et on recommence, la crise sociale chez BFM TV avec la grève mise entre parenthèses, mais c'était avant. Des révélations sur les micmacs de Patrick Drahi, un crédit d'impôt pas très généreux pour soutenir la presse, France Télé cible des hackers. Je vous parle également des Français qui ne se sont pas vraiment déconfinés de leur poste de télé et du retour de Plus belle la life.
Et on commence par les audiences, qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir et d'ailleurs ce week-end à la télé?
TF1 et son film Astérix aux Jeux Olympiques réalisent la meilleure audience hier soir avec plus de 4 200 000 téléspectateurs. France 2 et sa soirée spéciale municipale est deuxième. Il y avait plus de 2 800 000 personnes devant la chaîne numéro 2. M6 et Capital sont en troisième position, juste au-dessus des 2 500 000 de téléspectateurs. Et France 3 est quatrième avec sa très longue soirée électorale qui s'est étendue jusqu'à minuit. Il y a eu en moyenne 1 800 000 téléspectateurs devant France 3.
Ce qui est pas mal.
Culture Média.
Et nous sommes lundi, donc c'est la question traditionnelle du lundi, les audiences du week-end.
Un doublé pour le service public vendredi, c'est une rediffusion de la série Candice Renoir sur France 2 qui s'est hissée en tête de la soirée avec plus de 3 600 000 téléspectateurs. Et samedi, cette fois la victoire est pour France 3, il y avait pas loin de 4 millions de personnes devant l'enquête du juge interprétée par Francis Perrin. Et c'était là aussi une rediffusion, tout ça commence sérieusement à sentir les vacances.
Culture Média.
On commence ce journal des médias avec la suite de la crise sociale du côté de Next Radio TV, le groupe propriétaire notamment de BFM TV et de la radio RMC.
La situation demeure extrêmement fragile au sein du groupe dirigé par Alain Veil. Après une situation de blocage jeudi soir, les salariés avaient voté une reprise de la grève jusqu'à ce matin 9h. Et ce mouvement a tenu. Il a notamment empêché BFM de proposer normalement sa soirée électorale spéciale municipale hier. Une première dans l'existence de la chaîne Info. Ce week-end, les discussions ont repris. Les représentants des salariés ont publié une tribune dans le journal du dimanche. Alain Veil a quant à lui accordé une interview au même hebdomadaire. Il a défendu notamment le plan présenté par la direction et assuré qu'il serait à la hauteur des attentes des salariés.
Et donc après s'être interpellé par presse interposée, les deux parties ont peut-être trouvé un début d'accord.
Et évidemment, il va falloir être prudent, mais l'intersyndicale a décidé hier de voter une parenthèse à son mouvement de grève. Et si je dis parenthèse, c'est parce que c'est exactement le terme choisi par les organisations syndicales pour bien expliquer la situation. Cette parenthèse doit permettre de reprendre les négociations plus sereinement, mais l'intersyndicale m'a prévenu hier soir que les salariés restaient très mobilisés et que la grève pourra être revotée si les discussions n'aboutissent pas à des avancées significatives.
Sauf que Cyril, cette histoire risque de connaître un nouveau rebondissement avec une révélation du magazine Capital.
Il y a une chose qui revient régulièrement dans la bouche des opposants au plan de départ. Pourquoi procéder à des licenciements alors que les finances du groupe sont au vert? Les bénéfices de Next Radio TV étaient même de 120 millions d'euros l'année dernière selon les syndicats. C'est une hausse de 300% en l'espace de 5 ans. Et bien ce que nous révèle un article publié hier soir sur le site du magazine Capital, c'est que le grand patron, Patrick Drahi, s'est arrangé pour plomber les comptes de Next Radio TV et rendre la mariée franchement moins belle. Capital nous apprend que juste avant de lancer son plan social, Patrick Drahi a décidé d'intégrer sa filiale Altice TV au sein de Next Radio TV. Or, Altice TV, c'est tout sauf une bonne affaire. Capital. Selon Capital, sa perte opérationnelle est de 600 millions d'euros. Autant dire qu'il ne reste plus grand-chose. Hein. Des bons résultats du groupe Nextradio TV. Si Altice TV fait d'aussi mauvais résultats, c'est que c'est cette société-là qui regroupait notamment les droits sportifs que le groupe avait achetés à prix d'or et qu'il n'a donc jamais réussi à rentabiliser. Et voilà comment les équipes de Nextradio TV risquent de faire les frais de la stratégie ratée de leurs dirigeants.
Tout à fait autre chose, le gouvernement crée un crédit d'impôt pour soutenir la presse.
Un amendement s'est glissé dans le projet de loi de finances rectificative. Il prévoit que certains Français pourront déduire la moitié d'un coût d'un abonnement à un journal, une publication périodique ou un site d'information générale. L'idée part d'une bonne intention, mais le dispositif est particulièrement encadré. Il est d'abord réservé aux foyers fiscaux qui déclarent moins de 10 000 euros par an. L'abonné ne pourra déduire de ses impôts que la moitié du coût de cet abonnement et la déduction ne pourra pas dépasser 50 euros. Ce dispositif ne sera disponible que pour un premier abonnement et donc limité à une seule fois. Enfin, il ne pourra pas être utilisé pour s'abonner, par exemple, à un kiosque en ligne. Je le disais, une bonne intention du gouvernement, mais pas sûr qu'on puisse parler de véritable bouffée d'oxygène pour les titres de presse écrite et de presse en ligne qui réclament de l'aide de la part du gouvernement après la crise sanitaire.
Des hackers qui s'en prennent encore à un média français.
Après TV5 Monde et M6, c'est au tour de France Télévisions d'être frappé par une cyberattaque. C'est le groupe public qui l'a annoncé vendredi à l'agence France Presse. C'est un site de diffusion qui a été la cible d'un virus informatique. Un virus qui n'a pas perturbé la diffusion des programmes, même si par mesure de prudence, la diffusion de France 3 a été rapatriée au sein du bâtiment principal de France Télé, alors qu'elle s'effectue généralement depuis une annexe qui est située à Issy-les-Moulineaux. Comme toujours en pareil cas, la victime de la cyberattaque a tenu à éviter de trop s'épancher sur ce qui s'est réellement passé. M6 s'était aussi montré très discret sur sa situation à l'automne dernier. Ce n'est pas la première fois que France Télé est la cible de hackers. Il y a 5 ans, l'entreprise française s'était fait dérober une partie de ses bases de données contenant 12 millions de contacts.
Et puis Cyril, toujours à propos de France Télévisions, un ancien président a été élu hier soir au municipal.
Patrick de Carolis est le nouveau maire de Arles. Il a été élu avec plus de 57% des voix devant le candidat communiste. L'ex-PDG de France Télévisions lui se présentait sous l'étiquette centriste. Patrick de Carolis a créé et présenté le magazine Des Racines et des Ailes jusqu'en 2005, date à laquelle il prend les rênes du groupe jusqu'en 2010. Une présidence qui va lui valoir de gros ennuis avec la justice. Patrick de Carolis a été condamné pour favoritisme et délit de recel de favoritisme dans le cadre de l'affaire Big Malion. Le tribunal avait prononcé une peine de 5 mois de prison avec sursis et 25 000 euros d'amende.
Cyril, on a suivi attentivement la consommation des médias depuis la période de confinement. Le CSA a publié vendredi la cinquième vague de son baromètre sur l'évolution des audiences. Et il y a une petite surprise.
Oui, depuis le 11 mai, les Français se sont déconfinés et donc les audiences records qu'on a connues entre le 11 mars et la mi-mai n'ont plus cours, mais la télé se porte toujours très bien. Selon les chiffres du CSA, la durée d'écoute moyenne pour la semaine du 8 au 14 juin est en nette hausse par rapport à la même semaine l'an dernier. En moyenne, nous avons passé 3h50 devant notre poste de télé. C'est 26 minutes de plus qu'en 2019. Je vous donne une nouvelle preuve de cet intérêt retrouvé pour la télé. Alors que d'habitude, la consommation de la télé est supérieure en mars par rapport à juin, souvent parce qu'il fait plus beau en juin qu'au mois de mars.
Évidemment, il fait nuit plus tard.
Eh bien, cette année, le CSA a observé que nous avions plus regardé la télévision lors de la première semaine de juin que lors de la première semaine de mars.
Inédit. Et puis pour finir, Plus belle la vie en fin de retour.
Ça lève les mains en régie, ça lève les mains en régie. Un peu plus d'un mois après la reprise des tournages à Marseille, les épisodes inédits de la série reviennent ce soir sur France 3. En 16 ans d'existence, c'est la première fois que Plus belle la vie s'arrêtait aussi longtemps. La faute, bien sûr, à la crise sanitaire qui a paralysé les tournages depuis la mi-mars. Évidemment, ce retour sur les plateaux s'accompagne de mesures strictes. Les coiffeurs et les maquilleurs sont tenus à distance et le port du masque est obligatoire pour tout le monde. Les comédiens ne peuvent l'enlever qu'au moment du tournage. Bref, tout ça complique un peu la tâche de tout le monde, mais les fans de la série n'en verront rien à l'écran. Pour l'heure, la production a décidé de ne pas aborder la question du coronavirus dans la série.
C'est étrange, puisque justement, ce qui faisait le sel de la série, c'est qu'ils abordaient tous les thèmes d'actu quasiment au jour le jour.
C'est vrai, mais il y avait déjà une histoire de virus au moment de la période de confinement et ils ne voulaient pas être un peu redondants avec cette histoire.
Merci beaucoup pour ces précisions, Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. Culture Média qui continue évidemment avec dans un instant notre info média du jour. Nous recevrons la députée Céline Calvez. Elle a rendu un pré-rapport sur la place des femmes dans les médias. Elles étaient en première ligne pendant le coronavirus, mais bizarrement, si j'ose dire, on les voyait toujours aussi peu à l'antenne. Ce sera juste après ça.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Elles ont été en première ligne pendant la crise du coronavirus et pourtant ce ne sont pas elles que nous avons vues en priorité dans les médias. Et le Covid n'y a rien changé, les femmes ont autant été sous-représentées que d'habitude à la télé, à la radio et dans les journaux. C'est notre info du jour et ce sont les conclusions d'un pré-rapport sur la place des femmes dans les médias en temps de crise. Pré-rapport remis la semaine dernière à Franck Riester, le ministre de la Culture, et à Marlène Schiappa, la secrétaire d'État en charge de l'égalité femmes-hommes. Rapport remis par la députée LREM Céline Calvez. Bonjour Céline Calvez.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Déjà, première question, à quoi sert de faire un pré-rapport? Pourquoi ne pas attaquer directement avec le rapport?
Le rapport, les conclusions doivent être remises fin août. Or, on le sait très bien, la question de la place des femmes dans les médias, ça demande une vigilance finalement quotidienne. Donc l'idée, quand nous avons pour la lettre qui confie cette mission, et c'est une lettre d'Edouard Philippe, c'était de pouvoir organiser l'horizon temporel. Et donc si nous étions bien d'accord sur fin août, pour moi il était nécessaire d'inviter un pré-rapport pour tout cela, favoriser la vigilance de chacun. Chacun est partie prenante de cette question.
Et les choses peuvent encore bouger, j'imagine. Edouard Philippe, vous avez confié cette mission le 24 avril. Pourquoi, nous rafraîchir la mémoire, pourquoi à ce moment-là?
Eh bien, en fait, une date à retenir, c'est le 5 avril. 5 avril, en fait, vous avez sur la une du Parisien, quatre hommes qui racontent l'après.
Ouais.
Et ça apparaît comme une claque. Et justement, vous le soulignez, il y a un paradoxe. Et ça voulait dire que les femmes ne pouvaient pas faire partie du monde d'après, ne pouvaient pas y réfléchir. Ça a été, enfin moi-même, je pensais que c'était une fausse une. Je ne pensais pas que c'était vrai. Donc en fait, le 5 avril, ça a créé de l'émoi. C'était aussi alimenté par le fait que sur des plateaux, et pas seulement dans la presse écrite, eh bien, nous soyons aussi témoins de l'absence de femmes.
Comment vous avez travaillé alors?
Alors, on a travaillé à partir des études du CSA et de l'INA, et j'ai beaucoup poussé pour qu'il y en ait fait de manière vraiment ad hoc sur la période de crise, mais il faut dire que l'INA et le CSA travaillent déjà à la représentation des femmes dans les médias depuis plusieurs années, donc ça c'était pour la partie médias audiovisuels. Et puis bien sûr, moi j'ai fondé et j'ai peut-être bénéficié de l'effet confinement, c'est que nous avons réussi par la visioconférence à nous entretenir avec 150 personnes en l'espace de moins de 2 mois, et 150 personnes qui sont aussi bien des parties prenantes des médias, des associations qui luttent pour plus de place aux femmes, des chercheurs, des sociologues, en France, mais aussi à l'étranger, parce que c'est aussi ça, moi, qui m'importe, c'est de regarder comment à l'étranger ça se passe.
Mais parmi ces 150 personnes, c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'il y avait aussi des gens des chaînes de télé.
Bien sûr.
Des radios, des journaux.
Alors, des chaînes, des radios, des journaux. Et je tiens à souligner qu'il y a une culture très différente, même si on ne doit pas être dans une dichotomie la plus totale possible. Mais d'un côté, vous avez les médias audiovisuels qui sont habitués depuis 5 ans à pouvoir donner, rendre des comptes, c'est-à-dire compter les femmes en tant qu'expertes, en tant que journalistes au CSA. Et de l'autre côté, la presse écrite, qui n'est pas du tout régulée de cette façon-là et qui est plus ou moins habituée à compter. Nous avons des médias français qui comptent vraiment la place des femmes, le nombre de contributrices, le nombre de fois où une femme est citée dans un article, d'autres pas du tout.
Mais vous disiez quoi, les gens des chaînes, quand vous leur reprochiez qu'on ne voit pas assez de femmes à l'antenne?
Alors, avant de reprocher, il va falloir surtout, et c'est ce à quoi on s'est employé, c'est déjà diagnostiquer.
Vous avez raison. J'ai mis la charrue avant les bœufs. Quelle conclusion? Vous avez analysé, par exemple, l'interview phare des 8 matinales les plus écoutées à la radio entre mars et mai. Les conclusions?
Les conclusions, eh bien, le mois de mars, les femmes sont complètement invisibles. Là où elles sont, en général, à les 30 à 40%, nous pouvions tomber à 14 à 20%. Et il y a eu une remontée après. Donc en fait, c'est pour ça que la notion de vigilance, elle est importante. Nous nous sommes rendus compte que pendant les premières semaines, là où les médias se sont eux-mêmes rendus compte qu'il y avait une invisibilisation des femmes, il fallait retravailler à ce que ça puisse remonter. Sauf que ça ne se fait pas d'un coup comme ça de baguette magique. Il faut pouvoir s'en rendre compte, il faut pouvoir viser des objectifs et puis surtout il faut pouvoir se donner les moyens de convaincre et d'inviter les femmes à pouvoir s'exprimer.
Alors il y a également l'étude des journaux télévisés, là vous êtes appuyé sur 2 études du CSA et de l'INA pendant la crise. D'abord le CSA, qu'a étudié le Conseil supérieur de l'audiovisuel?
Alors le CSA s'est intéressé à deux contenus. D'un côté, les émissions d'information qui encadraient les prises de parole du président de la République, et de l'autre côté, les émissions spéciales Covid, c'est-à-dire celles qui étaient préparées avec suffisamment d'avance. Ce que l'on peut constater, c'est que si la place des femmes en tant que journalistes reste la même, on n'est toujours pas à 50%, mais en tout cas par rapport à la période avant crise, c'est la même. Au point de vue des expertes,
on est à 45-55. sur les présentatrices, mais voilà. Sur les expertes, en revanche, alors là, j'ai le chiffre sous les yeux, 80% des experts sollicités étaient des hommes.
Eh oui, et en fait, là, on a vraiment connu cette décrue. C'est vraiment sur la place des expertes. Ce qu'il faut souligner, et c'est pour ça que ce n'est pas que la responsabilité des médias, on a aussi une situation qui est une crise inédite où la parole scientifique est vraiment consacrée. Or, la parole des femmes dans les sciences n'est pas encore à la hauteur de ce qu'elles peuvent apporter et de ce qu'elles apportent. Il y a 2 ans, moi, j'ai pu travailler sur la place des femmes dans les sciences et force est de constater que dans les instances hiérarchiques, dans les lieux de pouvoir des sciences, les femmes n'ont pas encore la place qu'elles méritent.
Et quand on voit même les classes scientifiques, il y a beaucoup plus de garçons que de filles.
Alors, jusqu'à un certain moment, puisque vous avez plus de succès des filles, par exemple, sur le baccalauréat scientifique. Et puis après, ben, vous avez ce phénomène où on est de moins en moins présent. Et il y a un véritable phénomène de régression dans la programmation informatique et dans ce qui va donner l'intelligence artificielle. Dans les années 80, vous savez, il y avait plus de femmes dans ces filières-là que maintenant, ce qui est complètement fou. Il y a un phénomène de régression, alors que c'est ce qui va pouvoir nous déterminer dans les progrès futurs. Donc, il y a une véritable sonnette d'alarme à pouvoir tirer, et ça passe par l'éducation, parce que c'est pas en attendant que les femmes aient 20 ans que ça va pouvoir se faire, c'est dès le début.
Et je ne peux que vous donner raison. On a vu des femmes à la télévision, elles étaient majoritaires parmi les témoins pendant la crise du Covid, 55%, notamment chez les professionnels de santé, mais seulement 27% d'entre elles parmi les médecins entendus. C'est quand c'était les infirmières, c'était des femmes, de fait, ça vous fait sourire, en même temps c'est tragique, mais chez les médecins, c'était des types qui parlaient.
Et oui, et même parfois chez les infirmières, c'était des infirmiers qu'on entendait, alors qu'ils ne correspondent pas vraiment à la majorité du métier. Oui, nous entendions des médecins, parce que en fait, les médias vont chercher ceux qui ont le pouvoir hiérarchique. Mais nous avons aussi des institutions qui sont des institutions scientifiques qui préféraient envoyer des hommes que d'envoyer des femmes aussi.
On a parlé de l'étude du CSA, on va parler maintenant de celle de l'INA. Vous restez avec nous, Céline Calvez. On continue à parler de la sous-représentation des femmes dans les médias et notamment pendant la crise du coronavirus.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Nous sommes avec Céline Salvez, pardon, elle est députée LREM, elle a remis un rapport, un pré-rapport sur la place des femmes dans les médias en temps de crise, rapport commandé par le Premier ministre et remis à Franck Riester, ministre de la Culture, et Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Nous parlions d'une étude du CSA, autre étude sur laquelle vous êtes appuyée, celle de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, et c'est très très intéressant parce que c'est inédit à ma connaissance comme étude, elle porte sur les bandeaux déroulants entre le 17 mars et le 11 avril. Expliquez-nous, qu'avez-vous relevé sur ces bandeaux déroulants?
Alors déjà, il faut les repérer et la technologie de l'INA nous le permet puisque nous repérons quand une femme parle ou quand un homme parle. C'est ce qu'ils ont pu développer depuis 2 ans. Donc ça a permis d'isoler les moments où il y avait des femmes et de regarder effectivement sur les bandeaux d'incrustation comment les femmes étaient présentées. Ouais. Et là, on peut avoir le concept d'autorité qui peut être apporté. C'est une autre façon de pouvoir mesurer la légitimité que l'on va donner aux femmes. Et donc, ce travail qui a été fait avec 2 sociologues, Cécile Méadel et Marlène Coulonguly, est vraiment à noter, vous avez raison, c'est inédit. Et nous devons poursuivre en utilisant la recherche, en utilisant ce que la technologie permet à la recherche pour avoir suffisamment de recul et pouvoir non pas apprécier seulement la présence, le temps de parole, mais aussi la façon dont les femmes sont présentées.
Ça, c'est pour la forme, mais sur le fond, comment étaient-elles présentées et versus la façon dont les hommes étaient présentés?
Eh bien, on va dire que si les hommes étaient présentés comme ayant un pouvoir d'autorité à 77%, il n'en était pas du tout le cas. On était à moins de 50% pour les femmes.
Oui, mais est-ce que c'était le reflet de la réalité ou est-ce que c'est une sorte de volonté maligne, je dirais, funeste? Si, pardonnez-moi, si les cliniques sont dirigées à 90% par des hommes et que vous voulez un chef de clinique, il est normal que ce soit un homme, malheureusement.
Eh bien, en fait, oui, il y a une réalité qui fait que les femmes ne sont pas encore assez présentes dans ces postes de pouvoir. Mais la façon dont on pouvait présenter les rares qui pouvaient l'être n'était pas satisfaisante par rapport à leur légitimation. Vous avez peut-être un titre qui pouvait reprendre plusieurs fonctions d'un homme, et puis on n'imaginait pas trop le faire pour les femmes aussi. Donc ce ce fait-là, il est à poursuivre. C'est inédit. Il faut pouvoir, comme ça, Lina a de quoi faire beaucoup plus. Il faut pouvoir l'engager. Lina nous permettra aussi, d'ici la fin de nos conclusions définitives, de pouvoir analyser comme ça des centaines, des milliers d'heures pour regarder comment de 2019 à 2020 et pour pouvoir bien apprécier quelle est la différence sur la période de mars-avril-mai. Ça, il faut qu'on puisse le faire. Il faut compter, mais il faut aussi apprécier la qualité.
Alors, on sent votre enthousiasme. Pourquoi, selon vous, la crise du coronavirus aurait changé quelque chose, pardon de ma question un peu cynique, pourquoi la crise du coronavirus aurait changé quelque chose à la perception, à la présentation et à la représentation des femmes dans les médias ?
Je ne sais pas si elle aurait changé, mais en fait, nous, notre vigilance, c'était pour pas que ça soit aggravé, en fait, que cette minoration de la place des femmes ne soit pas aggravée. On le sait très bien, en période de crise, sous couvert d'urgence, on fait moins attention à ce qui est pourtant important. Nous devons, en tant que Françaises, pouvoir nous reconnaître dans les médias. Nous devons, en tant que femmes, pouvoir nous reconnaître. L'idée était d'appeler la vigilance à la vigilance pour pas que ce soit aggravé. Et si on peut trouver dans notre étude quelque chose d'intéressant, c'est surtout les façons dont on va pouvoir faire que ça aille mieux. Et pas seulement en période de crise, mais en temps normal.
Et alors, ce qui est très intéressant dans votre propos, c'est que vous estimez que des efforts doivent être faits des deux côtés. C'est-à-dire ?
Alors, des deux côtés. Quand je parle des deux côtés, c'est du côté des médias et du côté des femmes. Pour reprendre le nom de la mission qui m'a été confiée, c'est la place des femmes dans les médias en temps de crise. On ne peut pas dire que ce soit que de la part des médias que viennent se faire. Il y a les institutions, il y a les femmes, il y a la façon dont, par exemple, certaines expertes, quand elles sont appelées, peuvent refuser.
Je vous interromps juste pour raconter ici le cas de Caroline Roux, qui présente tous les jours sur France 5 l'émission C'est dans l'air. Son objectif déclaré depuis 2 ans ou 3 ans, c'est la parité totale. Elle-même est une femme, elle est militante. Et elle dit, c'est un enfer. Elle dit, c'est très, très, très difficile. Il faut en appeler des dizaines parfois pour avoir une femme qui accepte de se déplacer pour des raisons X ou Y, les enfants, et aussi parce que parfois elle ne se sent pas légitime à parler d'un sujet ou de sortir un tout petit peu de son cadre.
Alors, il faut que les deux côtés se comprennent mieux. C'est-à-dire qu'il faut que les expertes comprennent la valeur de l'occasion qui leur est donnée quand elles sont invitées à prendre la parole. Mais il faut aussi que les médias comprennent dans quelle mesure il faut davantage travailler en amont ce lien avec les expertes. Quand vous demandez à quelqu'un qui n'est pas habitué aux médias de venir sur un plateau en l'espace d'une heure, ce n'est pas forcément simple. Donc, il faut comprendre ce questionnement et il faut favoriser la rencontre des médias et des experts. Il y a déjà des initiatives qui existent dans ce sens-là, il faut aller encore plus loin. Ce n'est pas en attendant une heure avant le plateau que ça va marcher, c'est un travail de longue haleine, c'est avec dès l'école de journalisme, c'est aussi de pouvoir favoriser la culture de l'oral, la culture de l'expression à l'école, et aussi bien auprès des garçons que des filles.
Elles parlent très bien, les filles.
Mais elles parlent très bien, mais en fait, vous comprenez que dans notre système éducatif, et c'est en train de changer, nous avons peu de fois donné le temps et l'importance à l'expression. Il va falloir lire, il va falloir écrire, il va falloir compter, mais par contre, quand il s'agissait de s'exprimer, c'était pas forcément quelque chose de complètement admis. Aujourd'hui, avec la réforme du bac et la mise en place d'un grand oral, on y vient, et l'idée, c'est que ça infuse, dès la maternelle, cette question-là. Donc, les hommes, les femmes ont la parole, ont le pouvoir de la parole, aux expertes et aux médias de trouver les bons moyens pour que les expertes puissent accepter du premier coup une invitation. Ça ferait gagner du temps aux expertes comme aux médias.
Il n'y a pas que des tristes constats dans votre pré-rapport. Il y a des pistes, des recommandations pour établir la parité. Les principales ?
Les principales, en fait, c'est sur cette dynamique. Il faut compter déjà pour favoriser la prise de conscience. Il faut fixer des objectifs. Et ces objectifs, ils sont soit de l'ordre de l'incitatif ou de l'ordre du contraignant. Et puis, on a des pistes qui sont... Je parlais de nouvelles technologies tout à l'heure. Justement, on peut avoir un comptage qui soit facilité par les nouvelles technologies. Nous avons échangé avec Le Temps, qui est ce journal suisse qui a mis en place le paritomètre au quotidien. Vous pouvez suivre le nombre de contributrices sur Le Temps. Et donc, en fait, ça leur a demandé peut-être 2-3 jours de développement. C'est complètement utilisable par l'ensemble des médias français. Ce serait bien qu'on puisse le faire aussi.
Je précise sur Le Temps. Le Temps, c'est le nom du journal.
Oui,
c'est pour ça prête à confusion. Est-ce que vous seriez pour l'instauration de quotas et donc de sanctions si ces quotas hommes-femmes n'étaient pas respectés ?
Eh bien, oui. En fait, le quota fait peur en France, mais en fait, le quota veut désigner beaucoup de choses. Vous avez l'instauration de quotas à 50%, parfois vous avez des quotas à 30%. Qu'est-ce qu'on désigne en termes de quotas ? Est-ce que c'est sur une obligation de moyens ? Est-ce que c'est sur une obligation de résultats ? Moi, je pense que nous pouvons aller. Regardez la loi Copé-Zimmermann qui impose un quota de 40% de femmes au conseil d'administration. C'est le cas, c'est bien, on a des boîtes qui se portent bien quand même. Donc je pense qu'on peut y aller. Par contre, et ça c'est l'intérêt aussi du rapport
d'étape. Oui. D'un mot, je vais finir sur mon exemple de Caroline Roux, qui pense est édifiant. Supposons que vous imposiez un quota, mais qu'elle-même ne trouve pas de femmes pour venir parler de, je ne sais pas moi, une catastrophe, une usine qui a explosé. Elle ne trouve pas de femmes chimistes, elle fait quoi?
Alors, on a échangé avec Caroline Roux, et vous savez bien, effectivement, il ne faudrait pas que ces quotas soient contre-productifs. C'est pour ça que dans les conseils d'administration, ça n'a pas été fixé à 50% et 40%. Donc il faut trouver le bon niveau, et puis surtout, il faut donner les moyens à chacun de pouvoir atteindre l'objectif.
D'ici fin août, quand le rapport définitif sera remis, qu'allez-vous faire sur ce sujet-là?
Eh bien, moi, ce que j'aimerais, c'est que justement, on puisse implémenter les pistes sur lesquelles nous serons mis d'accord avec les parties prenantes, puisque là, on en dégage 21, mais peut-être que nous en aurons un petit peu moins, ou peut-être plus, mais sur lesquelles on s'engage vraiment de manière volontariste. Nous ne pouvons pas attendre que ça se fasse tout seul.
Merci beaucoup, Céline Salvez. Je rappelle que vous êtes députée LREM. Il y a écrit Calvez, députée LREM, en charge du rapport sur la place des femmes dans les médias en temps de crise. Dans un instant, Culture Média, ça continue évidemment. Nous serons avec le journaliste Hugo Clément. On va implémenter, comme vous dites, pour le nouveau numéro de son magazine Sur le Front, diffusé demain sur France 2. C'est juste après ça. Merci encore.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Hugo Clément.
Bonjour Philippe.
Demain soir sur France 2, Hugo Clément, vous incarnez une grande soirée, un long documentaire. Ça s'appelle Sur le front des animaux menacés. C'est seulement le troisième volet de votre saga Sur le front 2. Est-ce que vous pouvez rappeler le principe, la feuille de route du programme?
Le principe, il est très simple. C'est partir sur le front de l'environnement avec les femmes et les hommes qui se battent pour protéger des espèces, pour alerter sur l'effondrement de la biodiversité et la crise climatique.
Alors pour qui n'a pas vu l'émission, si je devais résumer, je dirais que c'est entre Ushuaïa et Cache Investigation. Il y a des images sublimes, mais avec de l'enquête qui tape. Après les océans, après les glaciers, vous intéressez demain soir aux animaux menacés. Pourquoi les animaux menacés?
Parce qu'on parle beaucoup de la crise climatique, mais on parle assez peu de la crise de la biodiversité, qui est au moins aussi grave. On est en train de vivre le début d'une sixième extinction de masse. Il y a environ 1 million d'espèces aujourd'hui, animales et végétales, qui sont menacées de disparition. Et on estime que toutes les 20 minutes, quelque part sur la planète, une espèce s'éteint. Donc il y a une vraie urgence. Et il y a surtout des femmes et des hommes qui se mobilisent et qui remportent des batailles, qui proposent des solutions qui fonctionnent.
Au-delà des espèces qui disparaissent, vous donnez ce chiffre, je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu ça, le nombre d'animaux disparus en 40 ans, vous l'avez en tête? Pas le nombre d'espèces, le nombre d'individus.
À peu près la moitié.
Les vertébrés, la moitié en moins sur toute la planète, et les insectes, 80% en moins.
En Europe, 80% en 30 ans, les insectes. C'est-à-dire que depuis ma date de naissance, 1989, on a perdu 80% des insectes.
Vous imaginez, depuis ma date de naissance?
Non, mais ça paraît incroyable en 30 ans,
bien sûr,
de perdre autant d'animaux. Et c'est ce qui doit nous alerter, ces chiffres.
Je me souviens, quand j'étais petit, on le raconte toujours, quand on faisait de la route, le pare-brise était dégueulasse.
Oui, et
maintenant, le pare-brise, il est quasiment net. Vous avez tourné quand? Vous avez tourné pendant le coronavirus?
Alors, on a tourné avant la crise du coronavirus. Les tournages à l'étranger, heureusement, la majorité, on les avait fait avant. Et on a tourné pendant, effectivement, cette crise, notamment dans le Jura, pour parler du braconnage dont sont victimes les lynx, les derniers lynx de France. Il en reste à peu près 120.
Alors, ce n'est pas tout à fait les derniers, parce que, je l'ai appris avec vous, le lynx avait totalement disparu il y a 40 ans. Il est revenu par la Suisse. Maintenant, il y en a 120. Dans le reportage, vous dites qu'il en reste désormais 120. Vous êtes pessimiste. On en a retrouvé 120.
On en a retrouvé 120 après les avoir totalement éliminés.
Évidemment.
Le lynx était présent un peu partout sur le territoire français. Il a été totalement éliminé par l'homme et il est revenu à travers la Suisse, vous l'avez dit. Il n'est pas revenu tout seul en France. Il s'est réimplanté dans le Jura et un petit peu dans les Vosges. Mais c'est une espèce qui est extrêmement fragile. Vous imaginez 120 individus, le moindre cas de braconnage, la moindre collision routière met en danger l'espèce.
Il y a des images absolument magnifiques, d'autres qui soulèvent le cœur. Par exemple, une femelle qui a été abattue dans le Jura par un chasseur, pas par un piège, par balle. C'est un tir volontaire. Vous êtes avec Gilles, qui s'occupe d'un refuge pour animaux. On vous écoute.
Là, on est dans le cas de quelqu'un qui a juste voulu tuer un lynx, parce que c'est pas pour le manger, c'est pas pour sa fourrure, c'est juste pour le tuer.
C'est une destruction délibérée et c'est pas pour le trophée, c'est vraiment pour le faire disparaître de la surface de la Terre. J'ai même pas les mots pour ça, je comprends pas que des gens puissent détruire ce genre d'animaux juste pour les détruire.
Et là, votre interlocuteur, c'est un grand gaillard, même s'il ne veut rien dire, mais il est au bord des larmes.
Ouais, c'est un homme extraordinaire. Gilles, il consacre toute sa vie à soigner, à relâcher dans la nature les lynx qui recueille. Et surtout, il lutte contre ce braconnage.
Il faut expliquer pourquoi ils sont braconnés.
Alors, ils sont braconnés pour une pure question d'ego. Ça paraît incroyable, mais en fait, c'est pas comme, par exemple, le rhinocéros ou les éléphants qui sont tués pour vendre leur défense ou leur corne. Là, on est juste dans la destruction d'une espèce parce que certains chasseurs, pas tous évidemment, certains chasseurs très minoritaires, ne supportent pas que les lynx puissent eux aussi manger du chevreuil. C'est aussi simple que ça. Ils vivent ça comme une forme de concurrence, alors qu'évidemment, le prédateur qu'est le lynx, il n'a pas le choix, il est obligé de manger du chevreuil pour survivre. Et ben, certains chasseurs ne supportent pas ça et préfèrent détruire les lynx quand ils en croisent.
Et puis, il y a des images absolument magiques avec des bébés, mais j'en dis pas plus. Autre bonne nouvelle, vous avez pêché un esturgeon dans l'estuaire de la Gironde.
Alors, pas moi, hein, Philippe, pas moi qui ai pêché l'esturgeon.
Mais je veux dire, la séquence, elle est banale. Même dans Thalassa, il ne l'aurait pas gardé au montage. Sauf qu'il faut avoir une info. Il s'agit d'un animal sauvage et c'est là où c'est complètement dingue.
L'esturgeon européen avait quasiment disparu en France dans les années 90. Il en restait 70. Ouais. 70 spécimens. Les scientifiques ont décidé de prélever ces 70 spécimens, de les mettre dans des bassins, de les faire se reproduire. Et grâce à ce travail scientifique incroyable, aujourd'hui, on commence à avoir un retour des esturgeons européens sur les côtes françaises. Et c'est une vraie réussite scientifique, une réussite française qui montre qu'on peut mettre la science au service de la sauvegarde des espèces menacées.
Qui étaient pêchées, évidemment, pour le du caviar. Pour
aujourd'hui,
le caviar.
C'est interdit. Hein.
Ouais, c'est
espèce totalement protégée.
Très très longtemps à se reproduire.
Plus de 10 ans, vous imaginez ?
Et ils vivent 100 ans.
Ils peuvent vivre jusqu'à 100 ans. C'est un poisson très très résistant.
Et puis il y a aussi les requins, il y a aussi le pangolin. Vous restez avec nous, Hugo Clément. Je ne retrouve plus le titre de l'émission. Sur le front des animaux.
Des animaux menacés.
Exactement. Merci d'avoir été avec moi en direct. C'est ça le direct. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Sur le front des animaux menacés, c'est le troisième tome de la grande saga d'Hugo Clément sur le front 2. Ce sera demain soir à France 2 à 21h. On parle des animaux qui ont disparu, qui sont menacés. Vous passez aux requins. Il existe 500 espèces de requins dont un tiers est menacé. Vous dites, vous en avez peut-être déjà mangé. Et alors du coup, je me suis posé la question, j'en ai dans un restaurant chinois, pas du tout. Vous allez dans un supermarché, un Intermarché, pour ne pas le citer, du Lot-et-Garonne, normal, ordinaire, vous en trouvez. Et là, on n'est plus dans Ushuaïa, on est dans Cache Investigation. On vend vraiment du requin dans les supermarchés français.
On vend encore du requin, des espèces protégées, des espèces menacées dans certains supermarchés français et dans certaines poissonneries.
Mais alors expliquez, comment se fait-il que s'il est protégé, que la pêche est interdite, on en trouve sur les étals du supermarché ?
Eh bien, c'est une faille de la législation, c'est-à-dire que quand les requins sont capturés de manière accidentelle, qu'on retrouve un requin menacé dans un filet, on a le droit de le vendre. Sauf qu'évidemment, personne n'est là pour vérifier que la capture est accidentelle. C'est impossible à vérifier. Donc, on peut retrouver du requin-renard, en l'occurrence, c'est ce qu'on montre dans le film, en poissonnerie et au supermarché, ce qui pose problème, évidemment, parce que les gens qui viennent acheter cette chair-là ne savent pas forcément que c'est une espèce menacée d'extinction.
Oui, parfois, ils l'appellent du veau de mer. En tout cas, on ne leur dit pas que c'est menacé d'extinction. Alors, ça s'est déjà produit dans plusieurs adresses Intermarché et vous avez contacté le siège d'Intermarché. C'est un coup de fil qui m'a fait plaisir. Parce qu'on voit par là que les mentalités quand même changent.
Oui, allô ?
Oui, bonjour. Vous vous occupez bien des relations presse ?
Oui.
On a constaté qu'il y avait du requin-renard en vente à la poissonnerie. Requin-renard qui est une espèce menacée.
Ah, bah oui, oh non ! Oh là là ! Bah oui, je sais ce qu'un requin-renard. Vous savez, on va pas se mentir, c'est déjà arrivé.
Oui.
Le groupement interdit la vente d'espèces protégées, menacées, etc. Mais parfois, il s'avère que des chefs d'entreprise, voilà, appelez ça une erreur, appelez ça une, je sais pas, une ignorance, je sais pas comment ça arrive là.
D'accord.
Et voilà, c'est forcément un cas isolé.
Voilà, elle a l'air totalement désolée.
Mais elle est probablement de bonne foi,
cette dame. C'est ce qu'on ressent.
On ressent qu'elle est de bonne foi, qu'elle est vraiment dépitée par le fait qu'on vende une espèce menacée dans un des supermarchés. Après, c'est quand même des cas isolés qui se reproduisent assez régulièrement concernant cette enseigne.
Voilà, et donc le mot, si vous avez peur de la tête du requin, parce qu'il y a des gens que ça choque, c'est veau de mer. Donc ne mangez pas de veau de mer si vous ne voulez pas manger de requin. Ça, c'est pour la France, il y a encore plus inquiétant. La pêche intensive en Espagne, vous êtes allé sur le port de Vigo. Le requin est pêché là-bas, non pas à cause de sa viande, mais à cause des ailerons qui sont revendus très cher dans les pays du sud-est asiatique, mais là où c'est complètement dingue, pourquoi je vous en parle, c'est que c'est subventionné cette pêche par l'Union européenne.
Ouais, complètement.
On marche sur la tête.
On pense souvent que la pêche aux ailerons, c'est uniquement des petites barques en Asie qui font ça de manière illégale. Pas du tout. Ce sont des gros bateaux subventionnés par l'Union européenne qui ramènent des milliers et des milliers de requins, en l'occurrence des requins peau bleue, dans le port de Vigo. Et le port de Vigo est un des principaux ports de pêche aux requins dans le monde.
On est toujours dans Cache Investigation ou dans Envoyé spécial, je vais pas faire de nombre. Vous allez au Costa Rica et vous montrez une nouvelle technique de pêche aux requins, ça s'appelle la pêche à la palangre. Expliquez.
Alors c'est pas nouveau, hein. c'est une technique qui est utilisée depuis très longtemps. En fait, ce sont
dites par qui elle a été importée.
Oui, elle a été importée en Amérique centrale par les Taïwanais.
Voilà, et la mafia
taïwanaise qui est arrivée et qui a dit aux pêcheurs locaux comment utiliser cette méthode. En fait, ce sont des grandes lignes. lignes qui font parfois jusqu'à 100 km de long, avec tous les 20, 30, 40 mètres, un hameçon accroché avec un appât, un énorme hameçon. Et donc, évidemment, c'est une catastrophe pour les écosystèmes marins, parce que ça attrape non seulement du requin, mais pas seulement, c'est ce qu'on montre dans le reportage, des tortues marines, des raies, des animaux menacés, d'autres types que le requin. Donc, c'est un fléau, cette méthode de pêche, et c'est celle qui est utilisée aussi en Europe pour pêcher le requin.
Alors vous avez trouvé au Costa Rica une entreprise qui s'appelle Inversiones Cruz qui fait du trafic de requins marteaux, qui est l'espèce de requin la plus menacée, donc la plus protégée, parce que malheureusement c'est le requin qui a le plus gros aileron derrière son dos. Donc il est très convoité. Au téléphone, ils vous disent que tout est légal. Ouais. Mais quand vous arrivez, tout est barricadé avec des miradors, des barbelés, on dirait une prison de haute sécurité. Et quand vous entrez quand même, il y a des barres de fer. Même la cage du gardien est protégée par des barres de fer. Et pourquoi c'est très intéressant ce que vous faites ? Parce qu'on voit que c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Car à côté de l'entrepôt, il y a un petit groupe de pêcheurs de requins et vous êtes allés discuter avec eux en caméra cachée. Pour dire les choses de manière simpliste, pour eux, les gentils sont les méchants.
Bonjour, nous faisons une enquête sur les requins.
Vous feriez mieux de parler du fait qu'on n'a plus de travail à Punta Arenas.
Il n'y a plus de travail ici ?
Non, il n'y en a pas. Les gens de Punta Arenas ont besoin de manger. C'est de ça dont vous devriez parler si vous êtes écolo.
Pourquoi ?
Parce qu'on n'a plus de travail, il n'y en a plus.
C'est la faute à qui s'il n'y a plus de travail ?
Du gouvernement qui collabore avec les écolos. Vous, les écolos, vous gagnez des cents et des mille, quand nous, on n'a plus un sou. Et cet enfoiré de requin, il ne sert plus à rien, c'est une merde.
Merci.
No comment.
No comment, mais c'est révélateur de ce que pense une partie des habitants de cette région. En fait, le commerce, l'exportation d'ailerons de requins marteaux était légale jusqu'à il n'y a encore pas très longtemps, et donc ils se faisaient beaucoup d'argent avec ça. Aujourd'hui, c'est illégal d'exporter le requin marteau. Ils ont toujours le droit de le pêcher, mais ils n'ont plus le droit de l'exporter. Et donc forcément, comme c'est plus légal, il y a moins d'argent à se faire. En tout cas, il y a moins d'argent à se faire de manière légale. Mais c'est ce qu'on montre dans le film. Malheureusement, le trafic continue.
Alors, on a l'impression que c'est loin de nous, en tout cas loin de moi, mais pas du tout, même si on n'a jamais mangé de requin, ni d'aileron de requin dans une soupe. On en trouve en France, je l'ai appris par vous, au rayon parapharmacie, des boîtes de cartilage de requin, complément alimentaire.
Ouais, tout à fait.
Vous êtes arrivé avec une boîte, vous regardez sur europe1.fr, regardez ça.
Je voulais apporter, ouais, Philippe, c'est une boîte de complément alimentaire, de collagène marin, donc ouais. Ça semble assez banal comme ça, et quand on achète ça, on lit juste que c'est pour aider à renforcer les os, les cartilages, les articulations, que c'est plein de vitamine C, et en fait, en regardant les ingrédients, on lit Centrophorus squamosus. Évidemment, personne ne sait ce que c'est du latin. Et en fait, c'est le nom scientifique du squale chagrin de l'Atlantique, qui est un requin et un requin menacé d'extinction. Et donc, on retrouve dans des capsules, dans des compléments alimentaires vendus en supermarché en banlieue parisienne, du requin menacé d'extinction sans le savoir.
Et il y a même des produits bio.
Il y a même des
de
produits bio, bien sûr. Et ça, c'est clairement de la tromperie du consommateur, parce qu'il y a marqué requin nulle part sur cette boîte de compléments alimentaires.
Vous avez quand même trouvé une boîte où il y avait écrit requin.
Ah, y en a,
qu'on voit dans le doc.
Il y en a où il y a marqué cartilage de requin. Bon, bah là, c'est clair. Mais par contre, ils ne donnent jamais l'espèce. C'est-à-dire que c'est cartilage de requin, point. On ne sait pas si c'est un requin menacé, un requin pas menacé. Donc le consommateur est trompé, clairement, par ces méthodes.
Vous finissez l'émission avec le pangolin. Mais à cause du coronavirus, vous n'avez pas pu y aller. Donc c'est des gens sur place qui ont fait l'enquête pour vous.
Tout à fait. Ce sont des journalistes camerounais qui ont fait cette enquête et qui l'ont menée d'une main de maître parce qu'ils ont réussi à remonter toute la filière du trafic des écailles de pangolin. On a dans ce film des images qu'on n'a jamais vues, notamment une séquence de chasse au pangolin où on accompagne un braconnier pour essayer de comprendre comment ils travaillent et pourquoi ils font ça. Et ils arrivent aussi à remonter une filière de trafic avec l'arrestation de trafiquants de pangolins qui ne sont pas des citoyens lambda, puisqu'on découvre que ce sont des militaires dont un est membre de la garde présidentielle.
Et la seule bonne nouvelle, c'est que le gouvernement chinois a décidé d'interdire le commerce du pangolin. Ouais. C'est peut-être la seule bonne nouvelle de cette crise.
À voir ce que ça donnera dans les faits, parce que c'est pas forcément parce que c'est interdit que le trafic va s'arrêter tout de suite.
Votre doc est diffusé demain sur la 2, mais il y a aussi un format qui se décline sur france.tv/. Qu'est-ce qu'on voit là-bas qu'on voit pas dans le documentaire ?
France.tv/, c'est un sujet toutes les semaines, inédit et exclusif, qui n'est pas dans les films diffusés à l'antenne. Donc toutes les semaines, on parle d'un sujet lié à l'environnement, des enquêtes, des reportages sur les réseaux sociaux de France Télévisions, France.tv/.
Le prochain sur le front, ça sera le front de quoi ?
Sur le front des forêts. Et ça sera à la rentrée.
Merci beaucoup. Sujet brûlant. Petite vanne. Merci beaucoup.
Merci Philippe.
Forêt, c'était ça la blague. Hugo Clément, je rappelle, sur le front des animaux menacés, ma vanne est tellement pourrie que je suis obligé de l'expliciter.
Ça sera c'est jamais bon
soir.
Signe.
C'est très mauvais signe. Ça sera demain soir à 21h. Merci Hugo
Merci
d'avoir
Philippe.
Été avec
Merci
nous
beaucoup.
Ici en direct. Culture Média qui continue avec dans quelques instants les infos, puis le journal de la culture. Notre invité, Franz-Olivier Gisbert, pour son nouveau roman Dernier été, pour lequel il ne va pas se faire que des amis. Nos indispensables, les vacances approchent. Quel jeu vidéo prendre dans sa valise ? Réponse avec Clément Le Saff. Et puis de la musique avec l'artiste Fakir. 100% électro. Angèle Châtelier l'a écoutée pour nous et elle est 100% séduite. Ce sera juste après le flash de 10h.